Parlons aujourd'hui dans la tête au carré de la dépendance à l'alcool. 2 millions de personnes en France ont des problèmes graves avec l'alcool. L'alcool serait responsable de 120 morts par jour dans notre pays. Avec moi aujourd'hui, le docteur Paul Kiritzé-Topor, médecin généraliste, alcoologue et vice-président de la Société française d'alcoologie. Le docteur Bernard Joussaume, médecin généraliste à Bandol, président de l'association Aube. On en reparlera plus tard. Et en direct au téléphone depuis Boston, le professeur Olivier Amezen, cardiologue et expert international en addictologie. Professeur Amezen, on va commencer avec vous. Vous racontez votre histoire dans un livre. Vous avez été un buveur occasionnel qui a commencé à boire tout seul à la maison et puis pendant des années, vous avez enchaîné les cures et les cuites. Je crois qu'on peut le dire comme ça. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui vous est arrivé ? En quelques mots, s'il vous plaît.
Tout à fait. Tout d'abord, une toute petite note. Là, je suis à Boston parce que je viens d'enseigner le cours sur ma découverte à Harvard devant un parterre avec standing ovation, ce qui n'est pas courant pour une découverte. Donc, quand vous disiez le mot un petit peu controversé, il n'y a qu'un pays dans lequel elle est un tout petit peu controversée, uniquement par les alcoologues et addictologues, parce que dans le reste du monde, au contraire, il y a des éditoriaux scientifiques qui vont tout à fait... qui me soutiennent entièrement. Alors,
mais professeur Amezen, toute cette histoire autour du baclofène, oui. On aura largement le temps d'en parler tout à l'heure. Ce que j'aimerais, c'est que vous nous racontiez votre histoire en quelques mots,
alors,
s'il vous plaît.
Je commence, si vous voulez. Ce n'est pas tout à fait exact que je commençais à boire chez moi, pas du tout d'ailleurs. Ce qui se passait, c'est que le problème initial était pour moi une anxiété. Je ne buvais pas du tout jusqu'à l'âge de 30 ans. J'avais une anxiété et une timidité qui était importante, et donc et aussi une estime de moi qui n'était pas bonne, ce qui fait qu'au contraire, lorsque j'étais invité dans des soirées, je me sentais mal à l'aise, on me demandait de pas... Enfin, je parlais aux gens, mais ça m'était difficile. J'avais été en traitement chez les thérapeutes, etc., ça ne servait à rien. Et lorsqu'on me demandait de jouer du piano, par exemple, je me rendais compte que je n'étais pas du tout à l'aise. Or, ce que j'ai fait, j'ai pris un verre de whisky un jour et j'ai remarqué que tout s'en allait. Donc l'alcool était un parfait médicament et m'a permis d'avoir des contacts avec les gens, d'avoir une vie sociale que je n'aurais jamais eue sans. Donc petit à petit, au bout de quelques années, s'est développé ce qu'on appelle la tolérance, c'est-à-dire que pour le même effet de suppression de l'anxiété, j'étais obligé de boire plus. Et donc ça allait jusqu'à 2, 3, je ne tenais pas de comptabilité. Et petit à petit, je suis devenu dépendant, c'est-à-dire qu'il me devenait impossible, donc alcoolique, et il était impossible pour moi, à la fois par la volonté et par l'intelligence, de m'arrêter. Alors je me suis retrouvé devant, c'était une expérience atroce, parce que normalement, comme médecin, lorsque quelqu'un vient avec une hypertension artérielle ou d'autres problèmes, on lui propose, on prend la pression artérielle, on fait des examens, on propose une radio thoracique et on propose un traitement. C'est la même chose pour un cancer ou toute autre maladie. Alors qu'ici, je me suis retrouvé devant des gens qui m'ont dit « faut peut-être aller en alcoolique anonyme » et d'autres qui me disaient « oh, ça sert à rien ». Je me suis retrouvé avec des médicaments dont on me disait qu'en fait, ils existent, par exemple, le Revia, la Camprosate, etc. On me les a donnés, je les ai pris pendant plus d'un an. Ils n'avaient aucun effet sur moi, comme d'ailleurs sur la plupart des gens, et aucun effet secondaire du reste non plus. Et donc, je n'avais rien. Je suis, alors, le tout, comme toujours, empire, ne fait qu'empirer, ce qui fait que je me suis retrouvé dans des situations catastrophiques aux urgences, en état de mal épileptique, en sevragie.
De nombreuses fois, c'est ce que vous racontez très bien dans votre livre, d'ailleurs. Vous racontez aussi que vous connaissez
des fractures,
vous êtes tombé, vous avez été opéré plusieurs fois. Vous connaissez très bien, vous racontez dans votre livre, le sentiment de la bouteille qui parle. Et puis, en 2002, vous avez fait une découverte qui vous a sauvé la vie. Vous avez commencé à tester sur vous-même, je rappelle que vous êtes médecin, un médicament qui est un relaxant musculaire, et on en parlera tout à l'heure, professeur Olivier Amezen. Mais est-ce que vous pouvez nous dire, Paul Kiritzé-Topor, vous êtes généraliste et alcoologue, ce qu'est la dépendance à l'alcool? Quand on écoute l'histoire d'Olivier Amezen, je pense que beaucoup de personnes dépendantes se reconnaissent.
D'abord, je vais saluer Olivier Amezen, malheureusement pas de visu, puisqu'il ne peut pas venir à cause d'un volcan, et dire que je suis content de le rencontrer à deux niveaux. D'abord, parce que c'est toujours intéressant de rencontrer quelqu'un qui a fait une expérience comme la sienne, et c'est toujours enrichissant d'en discuter avec eux, mais surtout aussi parce que c'est toute rencontre avec un malade alcoolique, et Dieu sait que j'en ai rencontré dans ma carrière, et que la rencontre avec le malade alcoolique me renforce toujours avec dans une position d'optimisme pour contrer un petit peu le regard négatif et la pensée négative qu'il y a sur les traitements alcooliques. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, de nombreux malades alcooliques sortent très bien de leur dépendance alcoolique. Alors, qu'est-ce que c'est que la dépendance alcoolique? Bon, si on prend la définition de base, princeps que nous avons, c'est la perte de la liberté de s'abstenir, qui est une définition compliquée, parce qu'elle implique aussi bien la perte de liberté physique, dans la dépendance physique, que l'incapacité de contrôler cette consommation dès lors qu'elle a été commencée. Et dans ce que dit Oliver Emerson, ce qui est intéressant, c'est qu'il a bu au départ comme tout le monde, hein, banalement comme tout le monde. Son projet d'ailleurs, c'est de retourner à ce comme tout le monde, mais qu'à un moment, ça a dérapé pour une raison XYZ. Ce qui veut dire que la dépendance alcoolique est un phénomène complexe, terriblement complexe, et je dirais même qu'il n'y a pas une dépendance alcoolique, mais qu'il y a plusieurs formes de dépendance alcoolique, dont celle qui était portée par Dr. Messen.
Est-ce qu'on est tous égaux devant l'alcool? Est-ce que la génétique, par exemple, joue un rôle? Qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui?
Alors, ce que l'on sait, c'est que oui, il y a une part génétique dans l'alcoolisme, et je crois que les recherches en neurobiochimie, parce qu'on est vraiment à l'aube des découvertes de ce qui concerne le cerveau, nous apportons la preuve qu'il y a une part de génétique, alors non pas chromosomique, non pas de gènes, mais une part génétique dans les phénomènes liés à la distribution, l'utilisation de ce qu'on appelle les neurohormones, les hormones cérébrales, qui nous aident justement en permanence, notamment à gérer nos émotions.
Bernard Joussaume, vous êtes médecin généraliste à Bandol. Comment vous aussi vous recevez des alcooliques? Comment devient-on alcoolique? Il y a plusieurs façons ou c'est toujours le même scénario qui se répète?
Non, il y a autant de malades alcooliques que de malades tout venant. On a l'impression, que je dirais, que les alcooliques sont des gens angoissés et qu'ils ont tout seuls trouvé leur remède. Parce que tout le monde picole un jour ou l'autre, et ils trouvent tout seuls leur remède, ça les rend mieux, et c'est là que ça démarre. Et comme disait le docteur Kiridze-Topor, c'est la perte de liberté de se débarrasser de ce poison. On dirait que l'alcool est le lien entre leurs neurones. Je ne suis pas du tout un scientifique, je suis un homme de terrain, un généraliste, un médecin de famille, je revendique. Et on dirait que l'alcool est une substance que les malades trouvent tout seuls, mais qui est un véritable piège, une glue à mouche.
Je vous propose d'écouter un témoignage, c'est celui de Francisco. Francisco qui a été interviewé par Elisa Portier.
J'aime le vin, c'est lui qui m'aime pas. C'est lui qui ne m'aime plus. Ben, au début, ça s'est très bien passé, ça a été une histoire d'amour. J'ai connu le vin assez jeune parce que bon, c'est la tradition, à chaque repas, il fallait qu'il y ait une bouteille de vin sur la table. Disons 9-10 ans, j'avais le droit de boire une petite goutte de vin pour goûter le vin parce qu'il était tellement bon qu'il fallait le goûter pour que je connaisse, pour que je vois la différence. La différence entre un Bordeaux, un Bourgogne, un vin blanc, un vin rouge, un rosé. C'était une culture, un repas, c'était une entrée, un plat, un fromage, un dessert, une bouteille de vin. Au moins une bouteille de vin.
Docteur Paul Kiridze-Topor, ça peut commencer très tôt la découverte de l'alcool?
Oh, certainement, ce qu'on peut, en gros, si vous voulez, c'est avoir deux pôles. Il y a des gens qui vont constituer progressivement leur maladie de la dépendance sous l'angle de la convivialité, des rencontres, des fêtes, et Dieu sait qu'en France, on sait arroser tout. Donc on peut considérer qu'une masse très importante d'alcoolodépendants que nous rencontrons sont des gens qui vont construire progressivement leur maladie alcoolique. Et il y a ceux qui, très tôt, extrêmement tôt, vont découvrir dans ce produit magique la réponse à un mal-être. Alors, il y a un exemple qu'on connaît bien, c'est celui de Marguerite Duras. Quand elle dit notamment, en fait, je me rends compte que j'ai toujours bu comme une alcoolique, elle nous dit bien par là que dès le départ, les effets qu'elle a ressentis ne sont pas ceux que tout le monde ressent, mais que tout le monde pourra ressentir au bout d'un moment. Et c'est un peu la complexité. Est-ce que l'alcool fabrique la maladie ou est-ce que la maladie sous-jacente fabrique l'alcoolique? Et ça, c'est un peu l'histoire du feu de la poule. Il n'y a qu'en travaillant auprès des malades qu'on arrive à distinguer de temps en temps quel était le primum movens. Mais il est certain que, quand on entend Oliver Levinson, c'est clair que le fond de sa problématique, et le dit bien d'ailleurs, était du côté de son anxiété, ce qui ne veut pas dire que tous les alcooliques boivent dans le même registre. Et je crois que c'est là la difficulté de l'alcoologie et là la difficulté de la réponse qui ne peut pas être une réponse unique.
Professeur Olivier Amezen, avant cette découverte de 2002 qui a véritablement changé votre vie, vous avez tout essayé pour vous débarrasser de cette dépendance?
Oui, pour revenir à ce qu'avait dit Francisco et en effet ce que dit le docteur que je salue également, je regrette de ne pas être sur le plateau. Ce que l'on entend régulièrement, et c'est ça qui m'a mis une puce à l'oreille extraordinaire, c'est lorsque vous rendez en réunion d'alcooliques anonymes, vous entendez les gens qui parlent vous dire « Lorsque j'ai pris mon premier verre, j'ai l'impression d'être devenu la personne que je souhaitais être, d'être devenu moi-même. » Ce qui m'a incité à penser que c'était une maladie biologique. Et de plus, c'est que le fait que ce soit génétique ou pas, comme on dit, lorsqu'un traitement marche dans 90% des cas, par exemple dans le cancer du sein, il y a de la génétique, dans les infarctus du myocarde aussi, ça ne nous empêche pas de les traiter très bien, donc c'est de la partie scientifique qui n'a pas d'intérêt sur le plan thérapeutique. Mais votre question, pardon, était... oui, alors j'ai été donc traité, comme vous me l'avez dit.
Vous avez tout essayé, vous avez pratiqué le yoga, vous avez suivi de très nombreuses cures de désintoxication, vous avez tenté les médicaments.
Des psychothérapies. Voilà, alors j'ai suivi des psychothérapies, alors toutes sortes de psychothérapies, psychanalyse, psychothérapie cognitive et comportementale, qui a été suivie par des alcoologues dans plusieurs pays, et ils m'ont donné les médicaments, enfin tous les médicaments utilisés, et comme chez, alors j'entends quand même le docteur Kaledetopor dire qu'il y a des alcooliques qui s'en sortent bien, en effet, pour certains qui n'ont pas, c'est-à-dire au niveau... c'est-à-dire que quelqu'un qui boit deux bouteilles de vin n'est pas par jour ou deux bouteilles de whisky n'est pas nécessairement alcoolique. Vous lui dites vous avez un diabète, il faut vous arrêter, ou un fumeur, il y en a qui s'arrêtent très bien, ils n'ont pas une dépendance forte. Par contre, lorsque quelqu'un vous dit je ne peux pas m'arrêter, et c'est très simple, il n'y a rien. Ce n'est pas du tout une maladie de la volonté ou de l'intelligence, car le cortex, et ça on le sait des études d'imagerie, n'est pas du tout toute partie intégrante de la maladie.
Professeur Amezen, c'est ce qui vous est arrivé. Vous ne pouviez pas vous arrêter. Vous passiez devant une épicerie où il y avait de la vodka, il fallait vous arrêter et acheter une bouteille de vodka. Voilà. C'est ce que vous racontez.
Exactement, je ne pouvais pas résister, c'est le cas, c'est pour ça que les gens traités dans les articles viennent de paraître encore récemment, quelqu'un traité, c'est-à-dire désintoxiqué, traité par les meilleurs médicaments et dans les mains des meilleurs alcoologues, une statistique de 2009, un article le montre encore, 90% rechute, et les statistiques sont là aujourd'hui, il y a 120 morts par jour, c'est-à-dire plus que n'importe quel cancer, et cela est plus important encore que cela avait été avant, alors que par exemple pour le sida ou pour l'hypertension artérielle, la mortalité était de 100%, donc les médicaments sont efficaces puisqu'elle est pratiquement nulle aujourd'hui, on ne meurt plus d'hypertension artérielle, alors que les traitements les meilleurs avec l'alcoolisme, pour l'alcoolisme, font que la mortalité n'a en rien changé. Donc l'efficacité de tous les traitements confondus est finalement nulle chez un alcoolodépendant sévère.
Professeur Olivier Amezen, le docteur Paul Kéretsé-Topor désire vous répondre.
Oui, je crois quand même qu'il faut être prudent quand on énonce des chiffres. D'abord parce que énormément d'alcooliques, jusqu'à 40% dans les enquêtes qui ont été faites, énormément d'alcooliques arrêtent tout seuls sans jamais passer par un système de soins, quel qu'il soit. Ça, c'est une chose qu'il faut redire. Que deuxièmement, tous ne rechutent pas. Et troisièmement, que tous ceux qui arrêtent de boire ne sont pas forcément malheureux. Je voudrais quand même remettre un discours un peu optimiste, à croire que seuls ceux qui prendraient le traitement X, Y ou Z pourraient s'en sortir, que tous les autres seraient malheureux. L'abstinence n'est pas forcément être malheureux. Je crois qu'il faut dénoncer cette histoire-là. Et autre chose, c'est pas que l'alcoolique ne veut pas arrêter, c'est qu'il n'imagine pas de quitter son produit magique. Voilà, et il a raison d'ailleurs, puisque c'est comme ça qu'il peut vivre.
Alors, quelle est votre définition de l'alcoolisme? D'après Olivier Amezen, quelqu'un qui boit deux bouteilles de vin par jour n'est pas forcément alcoolique?
La seule façon de savoir si quelqu'un, quel que soit son niveau de consommation, je précise bien, quel que soit son niveau de consommation, la seule façon de savoir s'il y a dépendance ou pas, c'est au travers d'expériences d'abstention de consommation de durée suffisamment longue.
Ça veut dire quoi une durée suffisamment longue?
Ça peut être 15 jours, 3 semaines, 1 mois, et on voit effectivement si au bout de ce délai, le désir de reprendre prend le dessus, oui, là, il y a donc, autrement dit, la dépendance alcoolique ne se définit surtout pas par rapport à la quantité bue, mais par rapport à la qualité de vie que la personne peut avoir avec son produit.
Alors, beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions sur le site de la Tête au Carré, avec celle de Aude. Est-il vrai que la moindre goutte d'alcool, chocolat à eau de vie, cuisine, fait replonger une personne abstinente depuis une dizaine d'années? Messieurs, docteur,
je crois que ça fait partie des dogmes des groupes d'anciens buveurs depuis très longtemps. Dogme d'ailleurs qui est remis en question, ils y réfléchissent et l'ont un peu quitté. Non, le fait de prendre une crotte, mon chéri, par exemple, et de rechuter, je crois que c'est que vraiment la rechute était déjà en cours depuis un moment et c'est le point final du processus.
Et cette question de Karine, est-il possible d'envisager de se défaire de son addiction sans supprimer totalement l'alcool?
Vaste question, effectivement. Ma petite expérience du baclofène que j'utilise depuis 2 ans, parce que le livre d'Olivier m'a séduit et que je n'avais aucune réponse à donner à mes patients, tous les traitements que j'avais pu essayer depuis 35 ans ne m'apportaient aucun réconfort et surtout aucun réconfort à mes patients. Donc, l'expérience que j'ai, oui, le baclofène tel que je l'utilise, mais c'est pas 100% de réponse, 100% de réussite. Je n'ai jamais dit que c'était un médicament miracle. C'est un médicament parmi d'autres qui apporte beaucoup de satisfaction. Eh bien, ceux qui prennent du baclofène arrivent à stopper leur envie irrépressible et à pouvoir consommer, mais ils consomment, mais ça les intéresse plus. C'est très très curieux, très intéressant en tout cas.
Alors le baclofène, on en parle dans un instant avec cette incroyable découverte du professeur Olivier Amezen, qui est donc à Boston au téléphone et qui va nous raconter comment il a fait cette découverte en 2002 alors qu'il était au plus mal. On se retrouve tout de suite. Nantes avec la sublime voix de Renan Luce sur France Inter. Vous écoutez La Tête au Carré. Nous parlons de la dépendance à l'alcool et des traitements qui sont proposés aujourd'hui aux patients, donc dans La Tête au Carré aujourd'hui.
Disons que c'est une amie qui m'a fait prendre conscience de mon alcoolisme en me disant « Tu commences à être marqué par l'alcool, tu as les traits tirés, tu commences vraiment à être marqué par l'alcool, tu ferais bien d'arrêter. » C'était une amie que j'estimais et ça m'a tellement mis les boules, ça m'a marqué et ça, c'est ce qui a été mon déclic. À partir de là, après tout s'est enchaîné, j'ai pris rendez-vous dans une consultation de l'alcoolologie, j'ai été aux Alcooliques Anonymes et j'ai rencontré des gens qui m'ont expliqué la nature exacte de ma maladie, qui ne tape pas tout le monde. Beaucoup de gens peuvent consommer toute leur vie du vin, ne feront pas d'excès au quotidien ou ne feront pas d'excès plus que ça et ne deviendront pas dépendants. Je pense que nous sommes tous inégaux par rapport à ça. De la même façon qu'il y a des gens qui vont manger des viandes, ils n'auront pas de cholestérol, d'autres qui pourront fumer de temps en temps et s'arrêter. Et bien de la même façon, beaucoup de gens, et la plupart, bien heureusement, peuvent consommer du vin à bon escient et pouvoir s'arrêter. D'autres gens, comme moi, deviendront dépendants.
Reportage d'Elisa Portier, docteur Paul Kiridze. Topor, comment se déroule une consultation? Vous êtes alcoolologue.
Oh là là, vous me posez une question compliquée
Et qu'est-ce que vous proposez aux patients? On vient vous voir, vous discutez longuement?
Je crois que la première chose qu'il faut bien comprendre quand on veut faire de l'alcoolologie, c'est qu'il faut accepter le malade alcoolique comme tous les malades. Il a le droit au même respect, à la même écoute, à la même empathie, si vous voulez, que n'importe quel malade. Je crois qu'il y a lieu là de ramener un petit peu le débat sur la nécessité de le traiter comme un sujet souffrant d'abord et avant tout, et non pas comme un mauvais sujet. Et puis je dirais que l'idée de l'abstinence, le fait d'arrêter de boire, alors ça je vous donne mon point de vue de clinicien, ce n'est pas quelque chose qu'il faut mettre d'emblée comme objectif à atteindre. Voilà, je crois que si on ne pose pas immédiatement l'abstinence comme objectif final, si on écoute le malade parce qu'il a des choses à dire et que tout compte fait, c'est son projet qui va compter, pas le mien, là on fait de l'alcoolologie.
Professeur Olivier Amezen, sur quoi portait votre conférence tout à l'heure à Boston? Racontez-nous.
Mais alors c'était Harvard, donc, où j'en ai fait. Mon cours est devenu la coqueluche des universités américaines, allemandes, suisses et rien que les universités françaises où je souhaiterais être invité, mais je n'arrive pas à recevoir d'invitation, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, Sur quoi portait-il? Sur, alors je commence toujours par les statistiques, donc ça atteint 10% de la population, il y a aux États-Unis 300 morts par jour, et les traitements, et ça c'est reconnu par tous, ne marchent pas, c'est-à-dire que quelqu'un qui a une alcool-dépendance, comme le dit Dr Thierry Tétorvor, il y a des gens qui peuvent boire, ceci dit, ceux que j'ai fréquentés en alcoolique anonyme, je vais vous dire la vérité, j'en ai vu un qui a repris un verre au bout de 24 ans d'abstinence, il a rechuté, et nous sommes allés à son enterrement. Donc, on sait qu'un alcoolodépendant sévère qui reprend un verre, moi je ne le recommanderais pas, c'est la roulette russe et normalement la mort du patient, sauf encore une fois s'il a une alcoolodépendance peu sévère, qui peut contrôler par la volonté, tant mieux pour lui, c'était pas mon cas. Alors donc le cours porte sur, je présente donc ce qui m'est arrivé, comme je vais vous le présenter, enfin, comment, et ensuite comment je suis arrivé à cette découverte, ce qu'est le baclofène. Et c'est intéressant parce que, et ça se termine par, eh bien, comment le prescrivez-vous? Et eux le prescrivent déjà maintenant, alors ils ont commencé, je suis bloqué à Boston, ce qui est bien parce que je suis en contact avec eux, le professeur Weiss qui est chef de service d'addictologie là-bas, comme à Columbia, comme partout, comme il y a des gens. Alors, le chiffre, d'ailleurs, nous venons de publier, en parenthèse, un essai clinique, le premier au monde du baclofène à haute dose, et nous avons quelque chose qui n'a jamais été décrit auparavant, c'est-à-dire la suppression complète de la maladie, de la dépendance, et les gens...
Avec ce médicament. Professeur Amezen, en quelques mots, comment avez-vous fait cette découverte? On entend baclofène, baclofène, baclofène. Qu'est-ce que ce médicament, qui est un vieux médicament, qui n'est pas du tout destiné au départ à traiter l'alcoolisme, et comment avez-vous découvert que ce médicament pouvait vous aider?
Voilà. Je suis, alors c'est intéressant, je ne connaissais moi-même pas ce médicament jusqu'en 2001 à peu près, et j'en ai entendu parler. Il était, au départ, il ne m'a pas fait, il m'a pas donné beaucoup d'espoir, parce que comme les autres médicaments que seront le Revia, la Composite, etc., il réduit, c'est-à-dire que le modèle, en deux mots, ce que proposent les addictologues américains depuis maintenant 91, c'est... Puisque le craving, c'est-à-dire cette envie impérieuse de boire que rien ne peut arrêter, est la cause de la rechute, ils se sont dit, si on réduit cette envie extraordinaire de boire, on réduira peut-être les rechutes et réduira donc la mortalité. Or, ceci est faux, puisque la mortalité n'a pas du tout été réduite par ces médicaments, maintenant près de 20 ans. Donc je me suis dit, si le baclofène n'est qu'un réducteur, comme je les appelle maintenant, du craving, ça ne servira pas à grand chose. Et j'ai vu qu'il y avait quelques études, mais qui utilisaient du baclofène à dose quasi homéopathique, c'est-à-dire 30 mg par jour, et qui finalement donnait également une réduction du craving. Par contre, là, moi, de toute façon, ma vie en dépendait, donc je me suis mis sur le site du National Institute of Health, c'est-à-dire toutes les publications au monde, et j'ai commencé à les regarder les unes après les autres.
Et ça vous a donné des idées. Mais alors, avant de continuer, craving, docteur Kirit Setopor, on va quand même donner quelques explications de texte.
Oui, le craving, c'est un mot anglais qui a un sens très fort, c'est-à-dire c'est une sorte de besoin irrépressible contre lequel on ne peut pas lutter. Je crois que c'est une des caractéristiques de certaines formes de dépendance, mais je penserais quand même pour l'idée que tous les alcoolodépendants n'obéissent pas à des cravings. Il y a aussi des alcoolodépendances qui ne sont pas des alcoolisations intermittentes, compulsives, sujettes aux cravings.
Mais quels sont les symptômes?
C'est quelque chose qui, effectivement, dépasse le sujet. Amazène parlera mieux que moi, parce que moi, je peux le dire de l'extérieur. C'est quelque chose qui, vraiment, lorsqu'il se déclenche, n'imagine pas d'autre solution que la solution magique qui est de boire ou de l'héroïne pour les héroïnomanes ou de la cocaïne pour le cocaïnomane.
Ce n'est pas propre à l'alcool. Docteur Bernard Joussaume, quelques mots sur le baclofène. Au départ, c'est un médicament donc qui existe depuis plus de 30 ans.
Oui, que j'ai utilisé moi en neurologie, encore qu'en médecine générale, on n'en est pas un usage intensif. C'est un médicament qui a plus de 30 ans et la découverte d'Olivia Mézen fait qu'on n'a pas eu trop de gêne en médecine générale pour l'utiliser. Le dosage qu'on est obligé de dépasser par rapport aux recommandations de la HAS, la Haute Autorité de Santé, ou du Vidal, on a l'habitude, les médecins, d'avoir notre propre jugement et de dépasser certaines doses avec l'habitude. On sait manier ce genre de médicaments.
Le docteur Amezen découvre que le baclofène peut l'aider à surmonter son envie d'alcool. Et puis finalement, il utilise à des doses de plus en plus élevées. Je résume un petit propos de son livre que vous avez lu également, puisque ce livre vous a convaincu. Et ensuite, que se passe-t-il?
C'est dans l'affectif que ça s'est passé, c'est-à-dire qu'un ami m'a téléphoné en m'avouant l'alcoolisme de son fils, que j'ignorais, et m'a dit « il existe un médicament miracle », ce qu'il a utilisé le mot, lui, profane, et quand il m'a téléphoné, j'étais à la FNAC, j'étais pas loin du livre, je l'ai acheté, je l'ai lu, et pour moi, 35 ans de médecine générale sans avoir réussi à soigner un seul alcoolique de son addiction, mais comme dit le docteur Kirin Zetopor, il y a autant de malades que d'alcooliques, c'est très complexe, mais j'avais l'impression, en lisant le livre d'Olivier, que j'allais pouvoir l'utiliser et guérir des patients. Alors, je l'ai utilisé, la seule restriction que je mets absolument, d'abord j'avertis les patients des conditions dans lesquelles on utilise ce médicament. C'est pas un médicament interdit, mais les doses sont un petit peu excessives et dépassent les recommandations. Ça ne me gêne pas. Vis-à-vis des médecins, de l'ordre des médecins, ça ne me gêne pas. Par contre, ce médicament n'est pas autorisé dans ce traitement par la sécurité sociale, il ne doit pas donner lieu à remboursement. Ma lutte, c'est aussi que la sécurité sociale reconnaisse certaines guérisons et nous aide à rembourser ce médicament.
Qu'est-ce que vous constatez auprès de vos patients ?
Un étonnement, c'est la première fois de leur vie, le premier symptôme qu'ils décrivent, c'est une sérénité. Ils emploient tous le même terme, je suis serein, à partir d'une dose palier, et en augmentant progressivement les doses, ils arrivent à l'arrêt de leur addiction. Ils ne sont plus intéressés par l'alcool. C'est véritablement phénoménal. Pour certains, pas tous, parce qu'il y a plusieurs sortes d'alcooliques.
Professeur Olivier Mézen, est-ce que vous pouvez nous raconter le premier jour où vous n'avez pas eu envie d'alcool ? C'était dans un bar, je crois.
Alors, comme l'a dit très bien Dr Jousson, ce qui s'est passé, dès que j'ai pris mon premier baclofène en 2000, j'ai vérifié que c'était un médicament anodin, et dès que je l'ai pris, je me suis senti serein, comme je ne l'avais jamais été, relaxé, et c'était les muscles, et j'ai dormi comme je ne dormais jamais, c'est-à-dire que toute mon anxiété est partie. Par contre, mes rechutes continuaient, car le craving était présent et l'anxiété restait. Qu'ai-je fait ? Je suis allé, comme toujours en médecine, vous allez chez les travaux animaux, qu'est-ce que font les physiologistes. Or, les physiologistes, dès 1996, avaient montré que les rats dépendants à la cocaïne, ou à l'alcool, ou à l'héroïne, ou à la nicotine, etc., que ces rats, lorsqu'ils étaient dépendants, lorsque vous leur